les parts actualités.
Bonjour, ici Hélène Denis, bienvenue à l'émission Les Parts Actualités du 5 février 2018. En manchette aujourd'hui, santé, une entente de principe avec les ressources intermédiaires, découverte d'une molécule prometteuse contre la sclérose en plaques, des moyens pour réaliser les chirurgies, revers pour des médecins ontariens opposés à l'aide à mourir. Et en entrevue, je reçois Marie-Christine Hon, coordonnatrice de l'organisme dynamique des handicapés de Green Bay et Région, qui a remis récemment des prix Orange, un prix Orange, et aussi Daniel H. Lantaigne, qui nous parlera du projet de financement de la clinique Parents Plus, M. Lantaigne, directeur général de la Fondation Réa. Nouvelle tirée de la presse, santé, une entente de principe avec les ressources intermédiaires. Une entente de principe a été conclue avec les ressources intermédiaires qui accueillent des usagers parmi les plus vulnérables du réseau de la santé. Réunis mardi dernier en Assemblée générale extraordinaire, les membres de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec ont accepté l'entente de principe conclue avec le gouvernement du Québec. L'entente nationale était issue depuis le 31 mars 2015, a rappelé l'association par communiqué. L'association a affirmé que l'entente était un pas vers l'amélioration continue des conditions d'exercice des ressources intermédiaires, tout en disant maintenir les efforts pour sensibiliser le gouvernement à l'importance d'améliorer un réseau qui héberge plus de 14 000 personnes vulnérables. Le président de l'association, Michel Clair, a parlé de gains importants par rapport aux offres initiales. Le réseau compte 900 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 14 000 personnes vulnérables, par ailleurs inscrites au service d'un établissement public, dans toutes les régions du Québec. Les ressources intermédiaires sont des résidences qui accueillent des personnes âgées avec un déficit d'autonomie ou des personnes avec un problème de santé mentale ou de toxicomanie, une déficience intellectuelle ou un handicap physique. Dans le Journal de Montréal, découverte de molécules prometteuses contre la sclérose en plaques, des chercheurs ont identifié avec des expériences sur des souris une molécule dont la production est liée à l'hormone mâle testostérone qui paraît protéger contre la sclérose en plaques, une maladie auto-immune touchant les femmes 3 à 4 fois plus que les hommes. Quand les rongeurs femelles manipulées génétiquement pour souffrir de l'équivalent de la sclérose en plaques humaine ont été traitées avec cette molécule protectrice, leurs symptômes ont disparu, expliquent ces scientifiques. Cette avancée pourrait aboutir à une classe entièrement nouvelle de thérapie contre la sclérose en plaques, estime la docteure Melissa Brown, professeure d'immunologie à la Faculté de médecine de l'Université Northwestern à Chicago, principale auteure de ces travaux. Jusqu'à présent, les scientifiques ne comprenaient pas comment la testostérone procurait cette protection contre la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui attaque le système nerveux central, détruisant la myéline, une gaine entourant et protégeant les fibres nerveuses dans le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes sont des problèmes moteurs et des déficits cognitifs. Toutefois, pointe-t-il, même à court terme, la testostérone n'est pas une thérapie viable chez les hommes ou les femmes en raison de ses multiples effets secondaires néfastes. La dynamique des handicapés de Green Bay et Région a décerné son prix Orange annuel. Cette année, c'est la succursale de Chocolat Favori, située au 800 rue principale, qui s'est vue décerner les honneurs. Et on en parle avec Marie-Christine Hon, coordonnatrice de l'organisme dynamique des handicapés de Green Bay et Région. Bonjour, Madame Hon.
Oui, bonjour, Hélène.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Oui, alors on était supposé de se parler un petit peu plus tôt, vers la fin de 2017 et au début de 2018, mais des circonstances ont fait que, bon, on se parle aujourd'hui et ça me fait très, très plaisir parce que ça reste quand même d'actualité.
Merci infiniment.
Alors, Madame Hong, rappelez-nous d'abord la mission de votre organisme.
Alors, la dynamique des handicapés de Granby et Région, en fait, notre mission, c'est vraiment de défendre les droits collectifs et de promouvoir les intérêts des personnes handicapées.
D'accord. Et qu'est-ce que le prix Orange que vous décernez à toutes les années?
Alors, chaque année, on décerne un prix à un commerce, une entreprise ou une collectivité qui a fait un effort particulier pour rendre accessible l'endroit où ils sont, soit par des travaux d'aménagement, soit lorsqu'ils prévoient une accessibilité à l'intérieur, leur toilette, leur rampe d'accès. Donc, on leur remet une plaque ainsi que des autocollants qui identifient leur commerce ou leur activité.
Et comment fonctionne votre processus de sélection?
Ah, alors en fait, on visite sur recommandation de certains membres qui nous disent « Ah, là je suis allée, c'est accessible ». On choisit également, on visite, on accède, on regarde comment c'est fait et puis on choisit à peu près 4 ou 5 endroits et on décerne, on choisit celui qui est le plus adapté selon notre point de vue et puis on leur décerne le prix tout simplement.
Et le prix Orange a été décerné à quelle date exactement?
Il a été décerné au mois de décembre, en fait, cette année.
Et pourquoi vous avez choisi la succursale de chocolat favori?
Eh bien, parce que lorsqu'on a visité cette succursale, j'y vais toujours avec une personne qui est handicapée. Ouais. Et on a eu l'agréable surprise de voir lors de la construction de ce commerce, que l'intérieur était totalement accessible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès au rayonnage. Vous avez une énorme salle de bain où les personnes qui ont des gros fauteuils peuvent vraiment virer à 360 degrés. La toilette normale aussi est accessible pour des personnes qui ont, par exemple, une marchette. Et l'intérieur, vous avez des chaises qui sont amovibles. Vous pouvez bouger les tables, vous pouvez retirer les chaises pour vous installer. Vous pouvez voir toute la section des crèmes glacées, des chocolats. On a trouvé que vraiment la rampe d'accès extérieure est très, 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 très bien faite pour tous les autres commerces menant jusque chez eux. Il y a une terrasse également. Donc, c'est un endroit qui est favorable, où les personnes peuvent aller passer un moment et même l'été. Donc, pour nous, c'était vraiment un bel endroit.
Je comprends. C'est un prix grandement mérité. Est-ce que vous savez si tous les chocolats favoris, parce que c'est une franchise, il y en a plusieurs au Québec, sont aussi accessibles que celui qui était situé, que vous avez visité au 800 rue principale?
Non, je ne le sais pas. Il faudrait faire le tour de ces succursales-là. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des personnes qui, lors de la construction et l'aménagement de leurs endroits, font attention à cela. Donc, j'imagine que c'est peut-être accessible aussi dans d'autres succursales.
Je suis certaine qu'il y aurait des gens volontaires parce qu'il y a du bon chocolat.
Oui,
et d'autres
oui.
délicieux produits.
En plus.
Alors, Madame Hong, est-ce que vous voyez un impact dans la communauté depuis la création de ce prix il y a maintenant 4 ans?
Alors, pour en avoir fait part, parce que le maire de Granby fait toujours partie de cette remise de prix, oui, en fait, il y a quand même une publicité pour ces commerces-là. Ça a entraîné effectivement, l'an passé, c'était la papeterie Atlas, ils ont fait un aménagement. Donc, nous, ce que l'on veut, en fait, c'est faire une sensibilisation et que les gens comprennent qu'un commerce, surtout un nouveau commerce, peut être aménagé tout de suite. C'est beaucoup moins coûteux que de refaire. Évidemment, il y a des endroits qui ne seront jamais possibles d'aménager correctement, de par la façon dont c'est situé, la construction, les rues, etc. Mais on veut en fait un petit peu propager cette idée de rendre accessible tout de suite les nouvelles constructions, de montrer que c'est possible de le faire sans que ça soit trop coûteux aussi.
Oui, ça serait vraiment plus brillant. Agir
aussi
ainsi.
Pour les personnes âgées, les personnes qui ont des enfants en poussette, c'est pas juste les personnes handicapées qui en bénéficient.
Mm-hmm. C'est vrai. Existe-t-il une liste de tous les commerces accessibles à Granby et autour de Granby?
C'est un projet que nous avions réalisé il y a quelques années avec l'aide d'une subvention et c'est quelque chose que l'on compte mettre à jour, on l'espère cette année ou l'année prochaine, dépendamment de la façon dont on pourra le faire, évidemment, toujours avec nos moyens et puis les ressources que nous avons.
Vous remettez des prix Orange, est-ce que vous remettez des prix Citron?
Alors, on y a pensé, pour
Ouais.
tout vous dire, mais ma philosophie, c'est plutôt d'encourager
Ouais.
le positivisme, parce qu'on pourrait dénoncer tout ce qui ne fonctionne pas, mais l'idée, c'est d'encourager les gens, de leur montrer ce qu'on peut faire et d'aller dans un sens de progrès plutôt.
D'accord. Ben, je pense que c'est intéressant, ce point de vue. Marie-Christine Hon, coordonnatrice de l'organisme dynamique des handicapés de Green Bay et Région. Merci de cette entrevue.
Merci beaucoup et
Puis,
une très bonne journée à vous et à tous vos auditeurs.
très bien, merci.
Merci, au revoir.
Bloc régional dans le droit des moyens pour réaliser les chirurgies. La ministre responsable de l'Outaouais, Stéphanie Vallée, assure que des moyens sont mis de l'avant afin que les chirurgies n'ayant pas pu être réalisées au cours des derniers mois à l'hôpital de Hull puissent avoir lieu. Alors que le droit révélait que des centaines de chirurgies n'ont pas été réalisées cette année à l'hôpital de Hull en raison d'une pénurie d'infirmières ayant forcé la fermeture de lignes opératoires, la ministre Vallée estime que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais est très actif pour recruter du personnel. Madame Vallée affirme que le gouvernement met les moyens en place pour que ces chirurgies-là puissent avoir lieu, partout sur le territoire. On a un centre régional de santé, a-t-elle mentionné. Ce que ça veut dire, ça, c'est que des services sont offerts sur l'ensemble du territoire. Il y a une possibilité d'obtenir des chirurgies parfois dans des centres hospitaliers qui sont en dehors du centre et il y a des disponibilités. Le gouvernement souhaite maximiser l'utilisation de nos salles d'opération. La ministre responsable de l'Outaouais a indiqué que des salles de chirurgie sont notamment disponibles à Maniwaki et à Shawville. Mais pour toutes sortes de raisons, ça semble plus difficile de pouvoir occuper ces temps-là qui sont mis à la disponibilité des citoyens, a ajouté Mme Vallée en rappelant que des négociations sont en cours entre Québec et les médecins spécialistes. On doit prendre cet élément-là dans la balance lorsqu'on analyse l'ensemble de l'œuvre, dit-elle. Sur le site de Radio-Canada, l'infirmière Émilie Ricard, surprise d'être autant appuyée, affirmant que sa sortie sur les réseaux sociaux était avant tout personnelle, l'infirmière Émilie Ricard s'est dite surprise mercredi par la vague de soutien dont elle fait l'objet depuis. « Je ne m'en attendais pas, pas du tout. C'était un message plus personnel pour mon entourage pour montrer que je commençais à être tannée et je ne m'attendais pas à rejoindre autant de personnes », mentionne la femme de 24 ans qui a lancé un cri du cœur sur Facebook. Celui-ci a été relayé plus de 45 000 fois depuis. Sur le coup de midi, mercredi, près d'une vingtaine de collègues d'Émilie Ricard ont notamment manifesté devant le CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour montrer leur appui à cette dernière. « Notre priorité à nous, c'est de bien soigner nos patients », insiste Chantal Pitre. « Et quand on arrive de notre journée de travail fatiguée et épuisée, on se dit comme Émilie qu'on n'a pas donné tout ce qu'on aurait voulu donner ». Parce qu'on avait trop de patients, parce qu'on allait aux priorités. Mais c'est à ce moment-là, on ne fait pas bien le travail comme on voudrait le faire. La vague de solidarité s'est répandue comme une traînée de poudre aux quatre coins de la province, se réjouit Émilie Ricard, qui travaille dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, de Sherbrooke. « J'ai des messages du Québec en entier, de patients, de familles, de professionnels ou juste de citoyens concernés par les soins pour du soutien », souligne-t-elle. Ils me disent de continuer, d'être courageuse et de nous faire entendre. Ça aide, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. La société est concernée par ça et ça ne passe pas sous silence. Je m'entretiens maintenant avec Daniel H. Lantaigne, directeur général de la Fondation REA. Bonjour, M. Lantaigne.
Bonjour.
Alors, on parle avec vous d'un projet de financement de la clinique Parents Plus. D'abord, qu'est-ce que la clinique Parents Plus? Quels sont ses services?
La clinique Parents Plus est, selon moi, un des plus beaux petits bijoux de la réadaptation physique qu'on a ici à Montréal. La clinique Parents Plus, c'est une clinique qui est en place depuis 20 ans, 21 ans cette année même, je dirais, qui soutient l'ensemble des parents qui ont une déficience physique, mais qui souhaitent prendre soin de leur bébé. Vous savez, les gens qui sont en fauteuil roulant, notamment, comment est-ce qu'ils peuvent donner le bain au bébé? Comment est-ce qu'ils peuvent le mettre dans son lit de façon sécuritaire et de façon autonome et de façon aussi épanouissante dans le rôle de parentalité? Donc, cette clinique-là, qui a quand même rencontré plus de 700 familles là, depuis sa création, fait vraiment des miracles dans la situation de la vie des personnes handicapées.
Et les services, plus explicitement, quels sont-ils? Quels sont ces services?
Oui, donc les gens qui souhaitent se prévaloir des services de la clinique Parents Plus, ben, rencontrent un ergothérapeute, sont évalués à ce moment-là dans leurs habiletés qu'ils ont en ce moment. L'ergothérapeute va soumettre certaines recommandations. Il peut avoir aussi de l'acquisition d'appareils adaptés, disons le bain pour le bébé, comment on peut conjuguer avec cette réalité-là. Donc, il y a des appareils, il y a de l'adaptation également dans le domicile qui doivent être faits à ce moment-là. Donc, la clinique a vraiment l'ensemble de ces services-là, de l'évaluation jusqu'au très concret, là, vraiment de donner les soins au bébé.
Et la clinique est située où?
La clinique est située au centre de réadaptation Lucie Bruneau, donc sur l'avenue Laurier à Montréal. Elle existe depuis, comme je disais, depuis 20 ans, donc c'est quand même beaucoup de familles qui en ont déjà bénéficié. Mm-hmm. Mais les services peuvent quand même être offerts partout au Québec, voire au Canada. Il s'agit d'un autre projet qu'on a déjà financé, qui est la télé-réadaptation. Donc, disons, des parents qui seraient en Abitibi, par exemple, pourraient en bénéficier, parce qu'il faut se rappeler que c'est la seule clinique qui existe au pays dans cette nature-là.
Donc, est-ce qu'il y a des projets de développement?
Bien, les projets de développement sont principalement grâce à la télé-réadaptation.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire, disons, quelqu'un qui est en région éloignée ben, peut se présenter à son CLSC avec son ergothérapeute qui est local à cet endroit-là. Et là, évidemment, ça se fait à distance avec un ergothérapeute de la clinique Parents Plus à Montréal. Et c'est que là que les interventions ont lieu par un système de vidéoconférence de télé-réadaptation pour permettre justement d'offrir cette offre de service-là un peu partout.
Oui, j'imagine que est-ce que vous pensez que c'est aussi efficace que de rencontrer vraiment les personnes sur place?
Tout à fait.
Ouais.
On l'a déployé. C'est un projet qui a été fait en partenariat avec les gens du milieu clinique et les gens du milieu de la recherche. Et vraiment, là, même moi, je me demandais, bon, est-ce que le feeling est le même? Est-ce que les retombées sont pareilles? Et vraiment, les patients sont hyper contents. Il y en a qui faisaient vraiment plusieurs heures de route pour se rendre à Montréal et d'avoir accès à tout ça à distance, quand même par des ergothérapeutes qui sont présents et qui collaborent ensemble. Et ça permet aussi de diffuser cette pratique-là un peu partout parce que, bon, le savoir ne reste plus uniquement ancré là, ici au centre de réadaptation. Mais quand même diffusé un peu ailleurs. Donc, vraiment, ça a des très, très bonnes retombées, puis l'effet est aussi efficace.
Et il y a combien de parents qui font affaire à la clinique Parents Plus?
Donc, c'est vraiment sur une base de demandes volontaires, je vous dirais, ou des gens qui ont été référés. À chaque année, on peut parler là, facilement d'une cinquantaine de familles. Je vous dirais, plus la clinique est connue, plus elle est sollicitée,
ouais.
Parce que vraiment, les retombées sont bonnes. Mais c'est ça, en 20 ans, on parle de 700 familles. Donc, quand même, là, beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dessus. Et là, on vise à augmenter, à agrandir finalement le réseau. On était concentré sur la déficience physique. Maintenant, on ajoute également tout ce qui est cognitif, donc traumatisme crânio-cérébral, accident vasculaire cérébral, la sclérose en plaques, dystrophie musculaire, déficience motrice cérébrale également. Donc, on veut vraiment augmenter le champ de compétences et de connaissances pour aider les parents qui vivent d'autres situations là, que d'être cloués à un fauteuil roulant, finalement.
Ça veut dire plus de personnel?
Mais plus de personnel, oui, mais surtout plus de compétences, puis savoir comment on peut répondre aux besoins de ces gens-là.
Mm-hmm.
Donc, vraiment, ça se fait présentement en collaboration. C'est un projet qu'on finance avec des chercheurs de l'Université de Montréal qui travaillent avec les cliniciens au centre de réadaptation. Donc, ces gens-là travaillent tous ensemble pour une même volonté de dire ben, comment on peut aider davantage de gens et avec davantage de déficiences, qu'elles soient cognitives ou physiques, finalement.
Et pour un parent à l'écoute qui serait intéressé à s'inscrire, comment il procède?
Oui, donc bon, avec tous les changements, tout est maintenant rendu avec des guichets uniques de demande. Donc nous, j'invite les gens là, à appeler directement au service d'accueil et d'orientation du CIUS, du Centre-Sud de l'île de Montréal. C'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Le numéro de téléphone est le 514-527-4525.
527-4525.
Exact.
D'accord. Dans le 514.
Tout à fait. Donc, vous allez arriver à l'accueil et orientation. Vous pourrez vous poser vos questions à ce moment-là, puis ils pourront vous orienter le mieux possible pour bénéficier des services.
Quand un parent, justement, veut bénéficier des services, est-ce qu'il y a une attente avant d'avoir un retour?
Il y a une attente, une priorisation à voir c'est quoi les besoins, est-ce que c'est vraiment la clinique parent en plus. Donc, il y a vraiment un exercice de vérifier que l'offre de service peut répondre aux besoins des parents, mais sinon, je vous dirais que les gens sont rencontrés assez rapidement.
Est-ce qu'il y a des demandes qui reviennent fréquemment ou systématiquement?
Il y a des gens de plus en plus qui, avant même d'avoir leur enfant, vont approcher la clinique Parents Plus parce qu'ils ont des questions, ils ont des doutes, ils veulent être sûrs. Le fait d'être en fauteuil roulant, est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mon enfant? Est-ce que je vais pouvoir le changer? Est-ce que je peux le promener de façon sécuritaire assis sur moi, sur mon fauteuil roulant? Donc, les gens, de plus en plus, vont même aller justement à approcher la clinique Parents Plus avant même d'avoir leur enfant pour être prêt lorsque le jour J va arriver. Là.
D'accord. Vous êtes ouvert à répondre aux questions des parents qui n'ont pas encore leur bébé concret là, dans les mains?
Tout à fait.
Ouais. Parfait. Alors, Daniel H. Lantin, directeur général de la Fondation Réa, un grand merci de nous avoir parlé de la clinique Parents Plus, de votre projet de financement également.
Bien, merci à vous.
Au plaisir.
Au plaisir.
Bloc national international, revers pour des médecins ontariens opposés à l'aide à mourir, c'est tiré du Devoir. Des médecins ontariens opposés à l'aide à mourir ont échoué à faire déclarer contraire à la Charte canadienne des droits et libertés les dispositions d'une loi les obligeant à confier leurs patients à un collègue en cas d'objection de conscience. Dans la première décision, au Canada, appelée à cerner l'étendue de l'objection de conscience dans un contexte d'aide à mourir à l'aune des droits garantis par la Charte, la Cour divisionnaire de l'Ontario a clairement fait valoir mercredi que le droit des patients d'accéder de façon équitable à l'aide à mourir l'emportait sur les contraintes que pouvaient faire peser les règlements contestés sur la liberté de conscience et de religion des médecins. Plusieurs associations chrétiennes de médecins regroupant 4700 professionnels s'étaient liguées pour contester en cour la validité constitutionnelle de règles du Collège des médecins ontariens, instaurant un mécanisme de référence obligatoire des patients demandant l'aide à mourir en cas d'objection de conscience. Les médecins contestataires alléguaient que cette obligation faisait d'eux des complices de l'aide à mourir, empiétait sur leur liberté de conscience et les exposait à une détresse émotive et à l'anxiété. Ces dispositions, plaidaient-ils, avaient l'effet potentiel de les exposer à des sanctions disciplinaires et même de les forcer à abandonner la pratique médicale en Ontario. La Cour a réfuté la presque totalité de ces arguments, jugeant que laisser les patients se débrouiller seuls pour trouver un autre médecin pourrait mener à un déni de soins dans plusieurs circonstances. L'hébergement des personnes handicapées devant la Commission des droits de la personne. L'examen d'une plainte concernant des personnes vivant avec un handicap pourrait avoir un impact positif majeur sur leur qualité de vie, espère un avocat. L'avocat Vince Calderhead espère que l'effort qu'il mène depuis 3 ans dans le dossier pourra aider des centaines de néo-écossais handicapés à quitter les institutions où ils se trouvent pour vivre plutôt dans de petits foyers de groupe. Maître Calderhead argue que le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse contrevient à la loi sur les droits de la personne en gardant des patients tels Beth McLean et Joseph Delaney dans des hôpitaux ou des institutions s'apparentant à un hôpital. Une enquête de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, dirigée par J. Walter Thompson, débutera son examen de la question aujourd'hui à Halifax. Au fil des ans, Beth McLean, 46 ans, a fait des requêtes répétées au ministère des Services communautaires, lui demandant une vie dans un foyer, sur une rue ou dans un voisinage, expliquant qu'il lui est impossible de vivre hors de l'hôpital avec un peu d'aide pour cuisiner ou magasiner. L'avocat Vince Calderhead, qui ne perçoit pas d'honoraires dans cette cause, croit que le Canada ne doit plus garder les handicapés dans des institutions lorsqu'ils sont trop pauvres pour payer. Il tentera de démontrer que la situation contrevient à un article de la Loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse qui interdit la discrimination basée sur les handicaps mentaux ou physiques. La province dit qu'en date du 31 janvier, 1024 personnes en attente d'un transfert dans un autre type de lieu. Il y a 1024 personnes en attente d'un transfert dans un autre type de lieu d'hébergement. En rafale, les livres audio adaptés vont-ils disparaître alors que plus de 100 000 personnes vivent avec une déficience visuelle au Québec? La production de livres audio adaptés a diminué de 30 %. Vues et Voix sollicite aujourd'hui l'appui des médias pour sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public aux besoins des personnes vivant avec une déficience visuelle. Vues et Voix produit annuellement près de 750 livres audio adaptés pour le compte de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Or, Bibliothèque et Archives nationales du Québec en a réduit la production de plus de 30 % à la suite de compressions budgétaires. Conséquence, l'accès aux nouveautés en fiction, aux derniers essais et aux classiques de la littérature d'expression française est progressivement en train de se réduire alors qu'il était déjà insuffisant. Les livres audio adaptés permettent aux personnes ayant une déficience perceptuelle de dévorer de nombreux ouvrages et de mieux appréhender le monde. Avec l'aide de plus de 400 bénévoles, Vues et Voix répond depuis 40 ans à ce besoin en procédant à l'enregistrement de milliers de documents et de livres audio adaptés chaque année. Dans le cadre de la semaine de la Canne blanche qui se tient du 4 au 10 février, Vues et Voix demande aux décideurs politiques et aux organismes gouvernementaux de se positionner sur cette situation préoccupante qui vient toucher de plus en plus de Québécoises, Québécois et leurs proches. Avec l'appui de nombreuses organisations, Vues et Voix demande des actions concrètes dans le cadre des politiques annoncées d'accessibilité universelle et d'aide aux personnes en situation de handicap. C'est tout pour l'émission Par actualité d'aujourd'hui. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver demain. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Et puis merci à mes invités qui étaient aujourd'hui Marie-Christine On, coordonnatrice de l'organisme dynamique des handicapés de Granby Région, ainsi que Daniel H. Lantaigne, directeur général de la Fondation REAC.